Vlan, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et vous écoutez Vlan. Vlan, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment la société évolue. Bienvenue sur Vlan et n'hésitez pas à vous abonner. Donc bonjour à tous, je suis avec Nina Goss. Bonjour Nina.
Bonjour.
Et Nina, elle est avocate en propriété intellectuelle. Tu es spécialisée sur les nouvelles technologies et donc toutes les problématiques qui ont lien avec la donnée personnelle.
Exactement.
Et tu es dans un cabinet qui s'appelle le cabinet De Gaulle, Florence et Associés.
Exactement.
Voilà. Et on va parler des données personnelles, justement, et de la GDPR, évidemment. Donc, je pense que tout le monde en entend plus ou moins parler. Alors, les marketeurs, évidemment, en entendent beaucoup parler, travaillent plus ou moins dessus. Mais je pense que les gens ne comprennent pas nécessairement plusieurs choses. D'abord, un, pourquoi ils devraient s'intéresser à leurs données personnelles. Et deux, les impacts de la GDPR. Et en plus, en particulier, quand tu es une petite boîte, comment tu fais pour t'en sortir. Alors, la première question que j'ai pour toi et qui, moi, on me la pose régulièrement, c'est... Mais pourquoi je devrais m'intéresser à mes données personnelles? Parce que finalement, j'ai pas grand chose à cacher. C'est vrai que c'est souvent quelque chose qu'on nous dit. Pourquoi les gens devraient s'intéresser à leurs données personnelles?
C'est une très bonne question. Et ça introduit très bien le sujet RGPD ou GDPR, puisqu'on va pas s'intéresser à une réglementation qui protège nos données si on estime qu'elle mérite pas une protection. Alors pourquoi s'intéresser à nos données? Si on peut lire beaucoup de choses sur ce sujet, on lit aussi beaucoup, t'as déjà dû voir cette expression que la donnée finalement c'est un peu le pétrole, le nouveau pétrole, et que tous les modèles économiques actuels et les business models se ressentent finalement sur une exploitation de la donnée. Et donc forcément, à partir de là, ça veut dire que les pratiques vont vraiment de plus en plus consister à personnaliser les services, à profiler les personnes, à faire des personnes finalement des produits. J'aime pas forcément ce terme parce que je pense pas que c'est parce qu'une boîte va utiliser les données d'une personne qu'elle va forcément pas avoir de considération pour celle-ci et la réduire à ses données. Mais c'est vrai. Jusqu'ici, c'est vrai que comme on voit un peu, entre guillemets, pour beaucoup d'entre nous, que les avantages qu'on peut tirer de ça, bah finalement, on est prêt à donner nos données, et même à en donner beaucoup. Là où ça peut être plus problématique, et où souvent, je sais qu'on en avait parlé une fois, les personnes le voient comme quelque chose de plus intrusif, c'est notamment dès que ça va toucher des sujets un peu sensibles, comme ma santé, comme mon assurance, ou d'autres sujets. Donc si on prend un exemple là-dessus, aujourd'hui, tu as certaines compagnies d'assurance qui vont te proposer de moduler tes cotisations en utilisant un objet connecté, par exemple, qui va montrer que tu es un bon conducteur. Jusque-là, tant mieux, c'est dans mon intérêt, tout ça est très transparent, j'y ai consenti. Mais si finalement, demain, c'est quelque chose qui devient généralisé, normalisé, si toi... tu ne veux plus, finalement, que ça soit fait, est-ce que tu vas pas, au contraire, être exclu, entre guillemets? Donc ça, c'est un exemple, par exemple, qui montre que la donnée peut finalement...
se retourner contre toi.
Se retourner, entre guillemets, contre toi. Après, il y a plein d'autres exemples. Il y a les cyberattaques qui peuvent montrer qu'il faut s'intéresser à ces données et imposer des mesures de sécurité fortes sur toute organisation qui va traiter des données. Tu peux, on n'est pas obligé de penser non plus qu'aux entreprises. Il y a aussi les données, comment elles sont traitées par les organisations publiques, par l'État. Et c'est loin, malheureusement, d'être le public qui est forcément le plus exemplaire. On a pu le voir récemment avec une petite vidéo YouTube qui nous a été imposée à visualiser avant notre déclaration d'impôt et qui a permis à Google de collecter des données. Donc voilà, c'est autant de sujets qui font qu'il faut s'intéresser. Il faut pas avoir peur. Moi, j'aime pas du tout avoir un discours alarmiste sur ces sujets. Je pense qu'il faut vraiment, pour les personnes, être lucide, comprendre, ce qui est pas simple, parce qu'on est vite dans du jargon juridique, etc. Et pour les organisations qui traitent de la donnée, d'être responsable.
Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de faire peur sur la donnée en disant bah, si c'est gratuit, ça veut dire que c'est toi le produit, etc. etc.
Exactement.
Bon, voilà. Et en même temps, on peut pas nier que c'est important. Il y a l'exemple que tu prenais pour les assurances, mais on pourrait imaginer également, et on le sait, que ce soit ton iPhone ou que ce soit tous les assistants vocaux à la maison, que ce soit Alexa, Google Home ou Google Assistant, pardon, ou l'équivalent chez Apple, et ça enregistre globalement tout ce que tu racontes chez toi. Donc si, par exemple, tu es en train, je sais pas, de parler d'une rupture amoureuse ou d'un problème de santé ou... On peut imaginer, alors c'est pas le cas aujourd'hui évidemment, mais on peut imaginer que cette donnée, parce que c'est de la donnée aussi hein, finalement, une fois qu'elle est retraitée, elle soit revendue à une assurance, à des tierces parties qui sont prêtes à les acheter.
On peut imaginer mille cas d'usage et c'est toujours dur de parler de manière générale. Moi, je pense toujours qu'il faut rester sur des cas d'usage. Mais effectivement, il y a plein d'exemples. Internet des objets multiplie les opportunités d'exploiter de la donnée, les voitures connectées, les smart cities de demain. C'est un enjeu que je trouve génial et j'espère qu'on sera sur des villes toujours plus smart. Mais il faut forcément que ça soit protecteur de la vie privée. Et finalement, c'est vrai que souvent, on pense tout de suite à l'exploitation des données online, mais elle est de plus en plus offline. Ça peut être aussi les expériences retail avec une exploitation de la donnée, de la reconnaissance faciale à l'aéroport. Enfin, les cas d'usage sont très nombreux et c'est pour ça que finalement il faut s'en soucier. Et l'avantage, c'est que en Europe, on a quand même cette sensibilité. Je ne dis pas que les États-Unis l'ont pas. Je pense qu'il y a juste une différence d'approche. C'est trop souvent, il y a un raccourci qui est fait en disant en Europe, on protège la vie privée. Aux États-Unis, c'est pas le cas. Alors, avec Trump, c'est moins le cas, c'est sûr. Mais en soi, il n'y a pas une différence vraiment pour moi philosophique. Mais il y a quand même une différence d'approche. Et en tout cas, c'est vrai qu'en Europe, c'est gravé dans le marbre jusqu'à ce qu'on peut appeler entre guillemets la Constitution européenne, qui est la Charte des droits fondamentaux. Donc c'est vraiment une valeur. Et le RGPD, on va y arriver, est une occasion de réaffirmer cette valeur et de l'affirmer de manière... très forte sur toute la scène internationale.
Alors du coup, c'est justement parce qu'en fait, je pense que toutes les personnes qui écoutent, elles vont entendre énormément parler de la GRPD.
Perds ton latin.
Perds mon latin. Et elles ont dû recevoir beaucoup d'emails de marques qui demandent, mais est-ce que vous consentez à, etc., etc. On avait vu que Facebook a modifié
il a accéléré avec Cambridge Analytica.
Voilà, exactement. Ils ont décidé que toutes les personnes qui étaient aux États-Unis, donc ils séparent leurs serveurs pour que toutes les personnes qui soient aux États-Unis ou en dehors de l'Europe soient pas gérées sur les serveurs qui sont en Irlande en l'occurrence. Donc il y a quand même des impacts. Mais alors c'est quoi précisément? Parce qu'en fait, je pense que les gens ne savent pas nécessairement ce que c'est.
Finalement, à trop entendre le mot RGPD, soit on va devenir curieux, soit on va avoir un sentiment de répulsion absolue.
C'est bon, le sujet, j'ai entendu parler, voilà. C'est bon, merci.
Ce que je vois souvent parfois dans des services marketing, parce que forcément c'est compliqué. Donc le RGPD, pour être très simple, et on a peu de temps, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est, déjà ça veut dire quoi cet acronyme? C'est le règlement général relatif à la protection des données. Ce règlement, en soi, il ne faut pas y voir une révolution, parce que il vient moderniser une réglementation européenne qui existe déjà depuis 1995. C'était une directive auparavant. Seulement, si tu veux, l'UE s'étant rendu compte justement que la société change, il fallait une réglementation plus pertinente par rapport à cette exploitation de la donnée massive et essayer de mettre un peu fin au Far West qui peut avoir finalement dans l'exploitation de la donnée. Mais c'est pas une révolution. Ce qui fait que finalement on y voit un Big Bang, c'est qu'en réalité on a beaucoup d'entreprises, mais d'organisations, parce que c'est un règlement qui s'applique autant à des organisations privées que publiques, qui en fait n'étaient pas en conformité avec la réglementation antérieure.
D'accord.
Donc c'est pour ça qu'elles le vivent comme un Big Bang, parce que on a une réaffirmation de principes finalement anciens, mais avec une hausse de sanctions très forte, qui du coup fait qu'aujourd'hui toutes les organisations sont dans le sprint pour se mettre en conformité. Là où il y a un vrai changement en revanche et où le règlement opère un vrai bouleversement, c'est que d'une part, il y a un fort changement de paradigme. C'est-à-dire que jusqu'ici, les organisations, pour être conformes à la réglementation, principalement, elles remplissaient des formalités auprès notamment en France de la CNIL. Puis après, elles mettaient en place si pour certaines des process pour respecter la réglementation, mais c'était quand même voilà plutôt quelque chose d'assez administratif, relégué au service juridique. Aujourd'hui, on attend ça, ça c'est supprimé si tu veux ce système un peu déclaratif, cette paperasse pour la majorité, sauf pour certaines exceptions, notamment en matière de santé. Mais à l'inverse, on attend finalement beaucoup plus des entreprises puisque c'est à elles de prouver en permanence qu'elles sont en conformité. Donc je ne vais pas te dire que par toutes les obligations qu'elles ont, mais elles, en gros, elles doivent tout documenter, elles doivent tenir des registres, des données qu'elles exploitent. Elles doivent être vraiment, si tu veux, si demain il y a un contrôle CNIL, être capables de dire « je traite telle donnée ». Pourquoi je les traite? Pour combien de temps? D'avoir des mécanismes de purge quand j'ai pu avoir ces données, des mesures de sécurité fortes, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un changement important qui, forcément, pour des entreprises qui étaient plus ou moins compliant, demande de revoir toutes ces procédures internes, etc.
Voilà.
C'était pas forcément laxiste, mais ça attendait moins, c'est sûr, des entreprises ou des organisations de manière générale. Et de l'autre, il y a un renforcement très fort des droits des personnes. Des droits qui, certains, existaient depuis longtemps et d'autres qui sont complètement nouveaux. Par exemple, le droit à la portabilité. Le droit que si demain, moi, je viens voir Spotify pour lui dire « bah j'ai envie de changer, je veux aller chez Deezer », transmettez-lui toutes mes données, c'est pas à moi de le faire. Ça, c'est un nouveau droit.
D'accord.
Voilà.
Et donc le droit à l'oubli, par exemple ?
Le droit à l'oubli, il n'était pas vraiment nouveau, finalement, puisque c'est vraiment né...
Parce que c'est né avec le digital, ça.
Alors, c'est enfin, né, en part. Vrai, nous, on est un peu précurseurs, parce qu'on a une loi depuis 78 qui était plutôt une réaction à l'État, plus qu'au pouvoir économique. C'était un programme, à l'époque, qui fichait un peu les personnes. Nous, on a depuis longtemps un droit à l'effacement des D'accord. données. Mais c'est un droit, finalement, moins général et moins digital que le droit à l'oubli. Mais le droit à l'oubli, il est surtout né d'une jurisprudence en 2014 européenne qui a imposé justement à Google de mettre en place ces process. Mais c'est vrai qu'il est vraiment consacré donc avec le RGPD. Et ça va effectivement permettre à une personne de supprimer ses traces sous certaines réserves. Parce que à chaque fois, tous les droits, là encore, hein, c'est vrai qu'on parle du RGPD. Moi, ce qui me gêne, c'est que tout en voulant... sensibiliser les personnes via beaucoup d'articles de presse, etc., ce qui est très bien, ce qui doit être fait, et moi je pense que même l'éducation elle doit passer à l'école, enfin voilà, c'est des sujets très importants. Faut pas non plus mal informer les gens, et c'est le problème, c'est-à-dire qu'il y a parfois trop de raccourcis qui sont faits en disant par exemple le RGPD, c'est le consentement. Ça me gêne beaucoup. Le RGPD ne change quasiment rien sur le consentement, à part qu'il le réaffirme et qu'il dit que ça doit être vraiment un acte positif. Mais le consentement a toujours existé et je ne vais pas demander son consentement à mon salarié pour lui envoyer son bulletin de paie. C'est qu'une base qui rend licite un traitement de données, si tu veux. Mais il y en a d'autres. Donc voilà, en gros, le RGPD, c'est ça, c'est responsabilisation des entreprises, droit pour les individus et du coup, au 25 mai, une obligation de se mettre en route au moins pour les organisations qui traitent des données.
Et alors du coup, concrètement...
Qu'est-ce qu'on doit faire
pour les personnes, qu'est-ce que ça va changer? Parce que quand on leur demande leur avis, pourquoi ils doivent dire oui ou non ou... C'est-à-dire qu'elles vont recevoir moins d'emailing
Quelles vont être les conséquences en pratique, tu veux dire? Alors, les conséquences en pratique, on les voit déjà, c'est-à-dire que... Enfin, on les voit déjà pour certaines entreprises notamment. C'est normalement une transparence très accrue sur les traitements de mes données. Et effectivement, quand c'est soumis à un consentement qui soit effectif. Donc ça veut dire que demain, une organisation, pour prendre un exemple très concret, qui se serait permis de faire du cross-marketing sans demander le consentement des personnes.
Donc cross-marketing, ça veut dire je passe d'une marque à une autre.
Ou des opérations de partenariat. Donc, par exemple, j'ai une base de données. Demain, je fais une OP avec une autre marque. Je lui donne les données des personnes, alors que ces personnes m'avait seulement, moi, autorisé une entité X à traiter ces données.
Même souvent, il y a une petite case, mais bon.
Maintenant, cette case, elle doit être cochée, si tu veux, expressément par la personne. Elle ne peut plus être cochée par défaut.
D'accord.
Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Des politiques de confidentialité qui ne doivent plus être réservées à des personnes qui ont fait un bac plus 6 en droit, qui sont user-friendly, même avec des icônes. Enfin là, c'est vrai qu'il y a une grande... Moi, je dis toujours, pour convaincre les services marketing, qu'il faut vraiment, en fait... utiliser le RGPD comme une opportunité en fait de d'être créer de la valeur, de construire les conditions d'une confiance, et ça peut vraiment, j'en suis convaincue, être source de valeur partagée. C'est dur encore à faire passer comme discours. Pour le moment, on voit juste la contrainte, mais quand finalement ce sera ça la norme, une marque pourra être mal vue. Et si tu veux, il y a un des principes que j'ai pas énoncé, parce que j'en ai pas le temps, mais dans les nouveautés du RGPD, t'as la consécration de ce qu'on appelle le privacy by design and by default. Mm-hmm. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, si on prend l'exemple de l'IoT, demain, tu construis un produit, un service, en intégrant la vie privée dès le début. Et tu garantis une protection des données.
Donc IoT, c'est les produits connectés. Hein.
Exactement, pardon, Internet des objets.
Non, voilà. Et du coup, pour les entreprises, parce qu'en fait, il y a différentes typologies d'entreprises. Évidemment, je vois des blogueurs ou des influenceurs qui ont des newsletters, tu vois, typiquement, qui sont affolés parce qu'ils savent pas du tout comment se mettre en conformité. Donc ça, c'est un cas, évidemment, qui est le plus complexe, à mon avis, pour eux, parce qu'ils ont pas d'avocat, ils ont pas d'équipe, ils ont pas d'équipe juridique. Mm-hmm. Donc, c'est assez complexe pour eux. Et puis après, il y a le cas des grosses entreprises. Alors, il y a différentes typologies d'entreprises. Il y a évidemment, toutes les marques qui vendent des produits et services assez classiquement et qui font ce qu'on appelle du CRM, donc de la relation client, donc qui t'envoient des emailing, qui ont une carte de fidélité.
Vraiment dans la data dure, on va
exactement.
Dire.
Et puis après, t'as le niveau au-dessus qui sont les GAFA, les Facebook, les Amazon, mais eux qui sont très très bien.
Contrairement à ce qu'on. Moi, je suis toujours un peu, entre guillemets, gênée finalement quand on reproche beaucoup de choses aux GAFA en disant que dès l'entrée en vigueur du RGPD, on va intenter, tu as pu lire ça, des actions collectives contre eux, parce que maintenant, avec le RGPD, tu peux faire des actions collectives, ce qui est assez exotique pour la France, collectives avec indemnité, parce que nous, on avait une action collective en France depuis la loi Le Maire, dont tu avais peut-être entendu parler, la loi pour une République numérique, mais c'était des actions collectives juste destinées à faire cesser une violation de données.
D'accord.
Mais il n'y avait pas, comme aux États-Unis, de l'argent derrière pour les personnes.
Les class action.
Et d'ailleurs, il n'y en avait pas eu. Et donc là, si tu veux, il y a des associations, des personnes qui sont sur les starting blocks pour lancer des actions collectives, et en premier lieu contre
Facebook,
les GAFA. Voilà. C'est quand même quelque part... alors, c'est très bien qu'il y ait ce nouveau moyen d'action. Il faudra quand même voir, moi j'attends un peu en pratique, comment ça va vraiment
se mettre
en place, parce que c'est quand même présupposé qu'ils vont pas se mettre en conformité, ce qui est pas prouvé parce qu'ils ont, c'est quand même ceux qui ont le plus de moyens pour le faire. Et les GAFA mettent en place des choses, même si tu prends le scandale Cambridge Analytica, Facebook a bien sûr sa part de responsabilité, mais faut pas oublier que c'est avant tout Cambridge Analytica qui a violé la confiance des personnes et les
réponse,
règles destinées aux développeurs de Facebook, quoi.
C'était la réponse qu'ils ont donnée d'ailleurs.
Oui.
Et alors du coup, pour les toutes petites boîtes, c'est bon, là on est parti sur les GAFA, donc bon, pour elles, je pense qu'elles sont très 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 bien conseillées. Mais quand tu es un micro-entrepreneur, un influenceur, comment tu le gères? Qu'est-ce que ça implique pour toi? Tu vois, tu as une newsletter, les gens se sont inscrits sur ton blog ou je ne sais où.
Alors c'est vrai que le RGPD ne fait pas de distinguo, si tu veux. Il s'applique vraiment
à tout le monde.
À toute personne qui traite des données, sauf à des fins domestiques, on va dire. Mmh. Donc tu n'as pas, toi, dans ton téléphone, devoir faire quelque chose. mais donc, dès qu'il y a un traitement de données, alors du coup, c'est vrai qu'il y a moins de moyens, mais en même temps, il y a aussi, entre guillemets, moins d'obligations. Voilà, enfin, elles s'appliquent, mais un blogueur conçoit pas des iPhones et des logiciels.
Non,
donc, voilà. Mais par exemple, typiquement, pour l'envoi d'une newsletter, on va être en plein sur la question du consentement. Mm-hmm. Donc, ça va être avoir des mentions, des formulaires de recueil de collecte de ce consentement qui soient conformes. Et là, si tu veux, la CNIL aide vraiment les entreprises. Hein. Ce qui est bien avec quand même, ce qu'il faut lui reconnaître, et la pauvre a quand même très peu de moyens et beaucoup d'entreprises sont venues piocher dans ses équipes en plus parce qu'ils cherchaient des personnes en interne pour mettre en œuvre le RGPD, c'est que la CNIL quand même a toujours été dans une approche de constructive et d'accompagnement des entreprises. Elle l'a réitéré encore hier, c'est pour te dire, où justement le 25 mai n'est pas une date couperet, qu'elle est là pour accompagner toutes les organisations, qu'elles soient publiques comme privées, et que justement elle va essayer de mettre en ligne le plus de choses possible pour aider gratuitement les entreprises ou autres. Et ça, elle l'a déjà fait. Elle a publié des projets justement de mentions par le passé. Elle va les mettre à jour pour le RGPD. Elle a même publié avec la BPI un guide justement pour les TPE et les PME, donc qui est assez pédagogique. Voilà, alors... Ça rentre pas dans un degré de précision folle, ouais, mais ça te dit quand même ce que tu dois faire vis-à-vis de tes salariés, même si t'en as que trois, ouais. Vis-à-vis de tes clients, même si t'en as pas un million. Et donc, ça aide quand même. C'est pas si compliqué. Et ce que je dis à tout client, quelle que soit sa taille, c'est que faut pas tout de suite se dire je dois être en conformité totale, c'est impossible. Mmh. Mais il y a plein de petites actions de mise en conformité que tu peux faire tous les jours. Et ce qu'il faut vraiment, c'est insuffler une culture de la donnée. Et que ça devienne un comportement normal. Et du coup, c'est la mise en route qui est dure, qui prend du temps et qui coûte de l'argent, plus ou moins. Coûte plus cher forcément pour un gros groupe qui a plein de filiales qu'une petite boîte. Mais c'est pas si compliqué. Ça prend juste du temps.
Ça veut dire que, par exemple, admettons, moi, je reçois une newsletter que j'ai pas désirée, je peux porter plainte ? Comment ça va se passer concrètement ?
Alors, concrètement, si effectivement ton consentement était requis, donc c'est souvent le cas pour l'envoi d'une newsletter, sauf si... Après, tu as une exception, mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que tu as une autre réglementation qui arrive aussi, e-privacy, qui existe déjà et qui va être renouvelée, mais qui est en cours d'adoption, qui prend du temps et qui traite vraiment notamment tout ce qui est sollicitation commerciale, cookies, services de communication électronique comme Skype, etc. Donc ça, c'est un gros morceau qui arrive aussi. Quand effectivement, donc, tu vas recevoir... une newsletter que t'es pas client de cette marque, d'ailleurs tu sais même pas tiens qui t'a envoyé une newsletter, effectivement tu pourras porter plainte, plainte auprès de la CNIL.
D'accord.
Enfin déjà tu vas peut-être essayer d'exercer un droit d'opposition auprès de l'entreprise, mais si une semaine après ou disons allez un mois après elle continue, effectivement t'auras le droit d'exercer un recours auprès de la CNIL, voire même si ça concerne plein de personnes, de faire une action collective. Bon, après, il faut prouver ton préjudice, quand même.
Mais... Non, bien sûr. Ouais.
Voilà. Donc, oui, tout à fait. Pareil, en cas de fuite de données, on a vu, par exemple, tu as peut-être lu plein d'articles sur le fait que la fuite qu'on a connue il n'y a pas si longtemps pour Uber, avec le RGPD, ne se reproduirait plus de manière aussi silencieuse, entre guillemets, à apprendre finalement la chose un an après. Puisqu'effectivement, avec le RGPD, si une organisation a connaissance d'une violation des données, ça peut être par négligence, par cyberattaque, voilà, elle devra en notifier la CNIL, voire dans certains cas les personnes. Pas, c'est pas automatique, hein, mais voire dans certains cas les personnes.
Et du coup, si on creuse un peu sur les nouvelles technologies, c'est quoi l'impact de l'IA, des chatbots, mais aussi de la blockchain ? Parce que la blockchain, la promesse de la blockchain, c'est aussi, en partie en tout cas, une protection des données. Alors tout le monde ne comprend pas vraiment la blockchain, mais on va commencer par l'intelligence artificielle.
Sujet que, c'est vrai, m'occupe beaucoup en ce moment aussi. Parce qu'on mène notamment, on avait au sein de mon cabinet, deux des associés avec qui je travaille beaucoup sur ces sujets, avaient dirigé un groupe juridique dans le cadre du rapport Francia qui avait été remis sous la précédente législature, puis auditionné par Villani qui a mené sa mission. Puis aujourd'hui, donc t'as le Hub Francia qui est une association... où donc on mène des travaux juridiques. Et donc, on s'est posé d'ailleurs cette question à la dernière réunion. Et en fait, c'est vrai que ces nouvelles... Enfin, comment dire ? J'aime pas dire nouvelles techno pour l'IA, parce que c'est pas le cas, mais ces sujets, on va dire, d'actualité, soulèvent des questions et défient, entre guillemets, la réglementation. Une fois encore, je pense qu'il faut pas du tout avoir un discours alarmiste. Hein. C'est pas parce que t'as eu des limites. J'ai lu cette citation une fois qui m'avait fait rire. C'est pas parce que t'as eu des limitations de vitesse sur les routes européennes qu'il y a pas eu de nouvelles voitures. Enfin, tu vois, c'est pas parce que tu freines pas forcément l'innovation. Mais c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent. Donc, par exemple, si on prend l'IA, t'as un principe dans la réglementation des données personnelles qui est très important, c'est la minimisation des données. Ça veut dire que le RGPD t'impose de ne traiter que les données qui te sont vraiment nécessaires. Donc, tu vas pas aller collecter toutes les données d'une personne, qui sont si je prends Facebook, qui sont ses amis, ses goûts, etc. Ouais, si en fait tu veux juste, lui fournir un service. finalement, on voit que ce principe confronté à l'IA, notamment au machine learning, c'est un peu problématique parce que justement, les algorithmes, ils sont plus ils vont traiter de la donnée, plus ils vont être performants.
Bien sûr.
Donc, t'as le principe de minimisation, t'as d'autres principes, hein, finalité, effectivement, si finalement, en faisant tes développements d'IA, tu découvres des nouvelles finalités, des objectifs que tu poursuis. Le consentement aussi, finalement, comment tu recueilles le consentement. Donc ça pose des questions, et la blockchain c'est pareil, alors c'est pas forcément les mêmes questions, mais ça pose des questions aussi. Si tu prends le droit à l'oubli que tu posais tout à l'heure, alors je parle de blockchain publique parce que la blockchain privée sera peut-être moins problématique. La blockchain publique, comment tu vas mettre en œuvre le droit à l'oubli, puisque justement l'idée c'est de garder tout le temps les données.
Mais pareil, tout le monde est propriétaire. Enfin, oui. T'es propriétaire de tes données, c'est un peu le principe.
Oui, oui, mais du coup, j'aime pas parler de propriété des données. C'est assez impropre, on a un droit de maîtrise sur les données, mais d'accord. Propriété, c'est pas européen, on va dire. Pour le coup, c'est américain. Mais donc voilà, il y a des questions qui sont soulevées. Même, encore une fois, tu dois aussi, en matière de réglementation, déterminer qui est ce qu'on appelle le responsable de traitement, c'est-à-dire qui... et le maître du fichier, si tu veux prendre une appellation un peu old school. Voilà, c'est ça. Finalement, c'est qui? C'est les mineurs. C'est la personne qui a décidé de la blockchain au début, tu vois. Donc, tu as des questions comme ça qui vont être résolues. Hein. C'est comme quand on s'est demandé comment on fait pour mettre en place le droit d'auteur avec Pinterest, etc. Mais c'est quand même des questions nouvelles et qui nous posent des défis. Mais c'est ce qui fait que j'adore travailler sur ces questions et... Parce qu'il n'y a pas de réponse, il faut les trouver. Donc,
exactement.
C'est ça.
Cool. Et alors, ce podcast, il s'appelle Vlan. À qui ou à quoi tu voudrais claquer la porte aujourd'hui?
Si on reste dans notre sujet.
On peut rester. Tu peux sortir, hein, si tu
veux. Non, je vais rester dans mon sujet.
Claquer la porte.
Je dis Vlan au marketing de la peur, justement.
Voilà. D'accord. Tu peux...
Parce que tout... Faut pas... Je pense qu'il ne faut pas avoir peur, justement, donc, du RGPD, mais transformer la contrainte en opportunité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai pas le choix, les personnes vont soit avoir peur, soit vont être statiques. Donc il faut au contraire prendre le dossier entre les mains et en faire une opportunité de créer de la valeur, comme je le disais, et de construire les conditions de confiance. Et ça s'applique autant pour des organisations privées que publiques, des petites comme des grosses. Et demain, ça sera un enjeu concurrentiel si on pense d'un point de vue entreprise. Et pour l'État ou les organisations publiques, c'est vecteur d'une bonne dématérialisation, de l'open data, de tellement de choses en fait qui vont nous apporter beaucoup. Et voilà.
Super.
Et donc pour les personnes, de ne pas avoir peur, mais d'être lucide.
Voilà. Cool, merci beaucoup.
De rien.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.